Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc ?
Bouffon ?
À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher devant le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
On pourrait dire que cet épisode est un épisode sur les femmes et le vin. Mais c'est surtout un épisode avec deux femmes qu'on aime beaucoup, passionnées de vin nature et qui en parlent parfaitement bien. Cet épisode est tout autant un épisode sur les femmes dans le vin qu'un épisode sur les vendanges, sur la vie de caviste, sur comment écrire sur le vin ou encore un épisode sur les cépages pirates. Parce que oui, ça existe, les cépages pirates. J'ai découvert ça pendant l'interview, je dois vous avouer. En fait, c'est genre des cépages avec des petits perroquets sur l'épaule et des cache-œil. Non, je raconte n'importe quoi, mais la vérité est pas moins passionnante. Vous verrez d'ailleurs à la fin de l'épisode, parce que c'est Anne Zunino, caviste, éditrice et co-organisatrice du salon Sous les pavés la vigne, qui est venue nous parler d'elle, de vin et de cépages pirates.
Sur le discours tenu par les gens qui viennent acheter du vin, j'ai souvent plus entendu des femmes dire qu'elles n'y connaissent rien et qu'elles veulent un conseil. Les hommes aussi veulent des conseils, mais parfois, ils ont une idée un peu plus précise de ce qu'ils pensent aimer ou de ce qu'ils veulent acheter. C'est la différence principale que je vois. Après, quand les gens viennent en couple, je ne vais pas dire que j'ai une clientèle parfaite, mais je trouve que les gens sont dans l'écoute mutuelle, donc ils se demandent ce qu'ils veulent boire. Il n'y en a pas un qui prend le dessus en particulier. En tout cas, de manière générale, c'est vraiment pas ce qui ressort.
Mais d'abord, c'est Pauline qui écrit sur le blog Chasser le naturel avec qui j'ai discuté. Elle s'est mise au vin en sortant avec un caviste et puis s'est émancipée, si je puis dire. Elle a peaufiné son apprentissage pour aujourd'hui sillonner la France seule dans sa camionnette, rencontrer des vignerons, passer du temps dans les domaines et tout raconter sur son site. Elle met des visages sur de simples noms de domaines, des histoires sur des étiquettes et nous raconte la vie du vin, la vie de la vigne. Ce que je préfère dans ses textes, c'est sa façon d'écrire, de décrire le vin. Parce qu'en fait, souvent, je me sens un peu exclu quand je lis un article sur une bouteille ou un vignoble. Et ça n'arrive jamais avec Pauline. Sur Chasser le naturel, elle parle plutôt de ce qu'elle ressent avec des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Elle s'attarde sur des détails de vie, des histoires, des moments, des gens. Et en plus, pour ne rien gâcher, elle est de très bons conseils. Ah oui, et avant de commencer, mais vous l'avez sûrement deviné, chasser le naturel, c'est parce qu'elle a le bon goût de ne visiter que des vignerons naturels.
Alors moi, j'ai grandi à Bordeaux.
Ok.
Voilà, je suis partie à Paris, j'avais 17 ans et des brouettes. Et donc voilà, je suis montée pour mes études où j'ai fait Hippocagne-Cagne. Donc lettres, et ensuite j'ai fait une école de commerce. Et là, j'avais fait un stage, en fait, dans une cave à vin. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans.
C'est pas un parcours habituel, j'imagine, par rapport à tes anciens camarades d'école de commerce.
Non, bah d'ailleurs, on se parle plus. J'avais pas beaucoup de copains en école de commerce, en fait, pour être très honnête.
Et là, maintenant, comment t'es arrivée de... Enfin, ça fait combien de temps que t'as quitté Paris pour faire ton blog? Enfin, est-ce qu'il y a eu du temps entre
Alors,
les deux
c'est... Je suis restée dans ce bar à vin à Paris pendant 3 ans. Et j'ai passé donc toute l'année 2017, j'étais à Londres où j'ai travaillé dans la restauration, donc juste après avoir quitté mon bar en fait. Et puis ensuite je suis rentrée à Bordeaux en me disant bon, j'en ai un peu marre du monde de la restauration, j'en avais un peu marre du vin aussi pour être très honnête, et j'en avais marre des grosses villes. Je suis rentrée chez mes parents et puis petit à petit, je me suis dit, j'ai envie de revenir à l'écriture vraiment. Et ça s'est fait un peu tout seul en fait. J'ai été à un ou deux salons sur le vin, j'ai revu des gens que j'avais pas vu depuis longtemps. Puis je me suis dit, c'est trop con de quitter le milieu du vin. Et puis j'ai essayé de lier les deux et j'ai lancé le site ensuite petit à petit.
Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais sur Chasser le naturel?
Sur Chasser le naturel, et ben en fait, donc j'ai acheté une petite camionnette. Et l'idée, c'est d'aller rencontrer les vignerons qui bossent en nature, mais vraiment de façon assez informelle, de passer du temps avec eux. Alors pour certains, ça va être 2 heures, pour d'autres, ça va être 3 jours. Enfin, parfois, j'essaye de m'arrêter pour bosser un petit peu avec eux, parce que c'est aussi là qu'il y a une rencontre qui se fait, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis ensuite, je continue ma route et j'essaye d'écrire un texte, en fait, que je publie sur mon site. J'essaye de raconter une histoire, vraiment, de faire un truc sensible, d'écrire avec mon cœur et pas d'écrire un truc très technique, parce qu'il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi.
Oui, c'est vrai que c'est d'ailleurs un truc, bon, c'est une question que j'avais pour plus tard, mais comme t'en parles maintenant, c'est vrai que je trouve qu'il y a dans l'écriture quelque chose de beaucoup plus accessible et moi je trouve beaucoup plus intéressant, parce que on s'écarte vachement du vocable habituel du vin qui est un peu excluant parfois pour les gens qui s'y connaissent pas forcément beaucoup, alors que toi tu parles plus des personnalités des vignerons, de ce que tu y as vu, de ce que tu y as fait, même si c'est parler d'un petit déj que tu as pris là-bas ou parler du paysage. Et comment tu as décidé de faire ça et est-ce que...
Bah, en fait, je crois que je n'ai pas décidé. Ça s'est vraiment fait tout seul. Déjà, je pense que le fait que je n'ai pas de formation et que j'ai tout appris sur le tas, ça... Et le fait d'avoir dû m'efforcer, en fait, d'avoir été dans un milieu de vin où je comprenais rien, je me suis dit au bout d'un moment, bon, il faut que j'apprenne, mais j'arrivais du mal. Enfin, c'est difficile de comprendre certains concepts quand on est vraiment hors du milieu. Et je pense que c'est la façon dont je l'ai appris, en fait. Du coup, ça ressort comme je l'ai appris. Donc, ça sort avec des mots très simples. Et je me dis que c'est la meilleure façon, finalement, d'approcher le vin, en fait.
Oui, je trouve aussi parce que, c'est moins clivant en fait, c'est pas si t'es pas du milieu tu comprendras pas, c'est n'importe qui
voilà, c'est en fait si ça te plaît, si ton goût il aime ça, si ça plaît à ton cœur, à ton cerveau et tout ça, bah c'est bon, c'est gagné. Enfin, je veux dire, il y a pas besoin de partir dans des termes techniques, de perdre tous les gens. Enfin, ça se voit dans la restauration en fait, tout simplement, quand t'as un sommelier qui va créer une espèce de barrière et dire alors voilà, c'est tel cépage, il est à tel endroit, les gens ils comprennent rien, ils sont paumés, ils parlent d'un terroir, ils savent pas ce que c'est le terroir. Bon, il y a un moment donné, alors qu'est-ce que vous aimez? On parle de fruits, tu parles de choses beaucoup plus simples, accessibles, de l'émotion que ça te produit, et les gens sont beaucoup plus réceptifs à ça en fait.
D'ailleurs, tu as choisi de faire que des vignerons naturels.
Ouais.
Quand est-ce que tu es arrivé au vin naturel et comment t'y arriver?
Alors, donc ça, j'ai été donc dans ce bar à vin à Paris quand je me suis retrouvée toute seule à travailler, parce qu'on s'est séparés en bout de route, et ben je me suis dit merde, il va falloir que je fasse des commandes. Et donc j'avais toujours un peu laissé ça à mon ex. Et
parce qu'il t'a abandonné, enfin il t'a quitté ou vous êtes séparés,
voilà,
il t'a laissé
le
bar.
Moi, j'étais toujours associée avec un chef, mais j'étais toute seule à travailler dans le bar et il fallait que je me débrouille toute seule, donc c'est la meilleure façon pour apprendre. Et puis voilà, donc j'ai commencé à contacter certains vignerons qui m'avaient marqué ou me parler avec des agents aussi ou des copains qui travaillaient dans d'autres bars à vin. Et voilà, assez naturellement, je suis allée vers les vins nature, si je puis dire. Et puis et ensuite, quand je suis partie à Londres, je me suis vraiment dit bon, j'ai envie d'apprendre vraiment mieux le milieu de la restauration et de pousser à fond les vins nature. Donc là, j'ai vraiment choisi des restos spécialisés, enfin un gros focus sur les vins nature.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les vins nature?
Je sais pas. C'est difficile à expliquer en fait. C'est que je ressens quelque chose quand je bois un verre de vin, quoi. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose d'humain. Il y a un truc libre. Il y a une histoire. C'est un monde. Alors que sur un vin conventionnel, c'est beaucoup plus technique. Ça va peut-être être bien fait. Parfois, ça peut être bien fait. Mais c'est une recette en fait. Donc il y a un truc qui vibre pas en fait. Alors que les vins nature, t'as vraiment quelque chose de, je sais pas. T'as une dimension. Il y a quelque chose derrière, quoi.
Ouais, il vit, quoi. Il est,
voilà.
Il est.
C'est vivant.
C'est fait par un humain.
C'est vivant. Mais ça, ouais, c'est vrai, ça peut être bête à dire, mais c'est vraiment ce qui ressort et ce que je ressens.
Et alors, comment tu finances ce projet? Comment tu le prépares? Comment tu l'organises?
Je le prépare pas, je le finance pas. En fait, c'était un peu la bonne nouvelle et c'était aussi ça qui m'a décidé à me lancer dans ce projet, c'est que je touchais le chômage en rentrant de Londres. Du coup, je me suis dit, bon, si je veux lancer quelque chose, un projet, c'est un peu maintenant ou jamais. Donc je tire là-dessus et puis ça suffit. Après j'essaye de pas trop dépenser et puis voilà.
Ok, là c'est vraiment
pour l'instant c'est un peu à l'arrache, quoi. Ouais, voilà.
C'est ton chômage qui fait que tu peux continuer.
Que je peux vivre comme ça. Bon, après j'ai pas de loyer.
Oui.
Je paye mon essence, les péages, un peu de bouffe quand même, un peu et puis voilà.
Et comment tu choisis les vignerons que tu vas voir?
Alors, donc il y en a certains que je connaissais un petit peu d'avant, d'autres c'est beaucoup de bouche à oreille, on m'en parle, des copains, où on me dit il faut absolument que tu ailles voir un tel, voilà. Et ensuite, beaucoup Raisin aussi, l'application, je sais si tu connais,
ouais.
Où ils ont une map où t'as tous les vignerons qui sont recensés. Moi, ça m'aide bien parce que je me géolocalise, je me dis bon, qui c'est qui est à côté de moi? Et voilà, et puis après les vignerons, tu sais, ils te relaient, ils te disent mais va voir mon pote, va voir... Donc ça se fait assez facilement, ça. Et puis il y a du monde.
Ça fait combien de temps que t'as commencé?
Alors j'ai commencé petit à petit autour de Bordeaux, puisque mes parents sont là-bas, au mois d'avril. Et donc, mais je dormais pas encore dans ma camionnette. Et je pense que je me suis lancée vraiment au mois de mai, en allant à Banyuls.
Et t'es plutôt à chaque fois bien accueilli, c'est pas trop dur, la porte est plutôt ouverte chez les vignerons.
Alors, donc je les appelle toujours avant quand même, pour tâter un peu le terrain, mais généralement, ouais, ça se passe très bien et je suis très bien accueillie. Puis c'est des gens qui sont très ouverts et très ouverts à la rencontre. Mais t'as aussi l'inverse, il y a les cas où les gens... Faut pas oublier que les vignerons, bon, c'est leur lieu de travail, mais c'est aussi chez eux. Et donc, ils ont parfois du mal, je pense, à séparer le côté travail, métier et puis le côté friendly, social. Tout ça. Donc j'essaye de jouer un peu, j'essaye d'aller vraiment petit à petit, quoi. Je dis, je veux pas vous déranger, je peux vous donner un coup de main. Alors, je me retrouve souvent étiquetée ou même dans les vignes un petit peu et tout ça. Et comme ça, je leur prends pas de temps et j'essaye vraiment de montrer que je viens juste, je viens juste les rencontrer. Donc en général, ils sont assez réceptifs. Après, ça m'est arrivé 2-3 fois aussi d'arriver que les gens, bon, c'est pas le temps, ça les fait un peu chier, le blog et tout. Enfin, on me voit arriver de loin avec mon blog et mes cheveux, c'est un peu... voilà.
Et j'ai l'impression quand même que... Enfin, après, c'est peut-être une impression vraiment... que dans le vin nature, les gens sont plus aussi à même de vouloir justement que tu les rencontres, de vouloir parler de ce qu'ils font, parce que parfois, il y a d'un côté militant, parfois, il y a aussi une envie de partage. Et donc,
ouais, complètement.
Qu'un média est pas forcément vu du mauvais œil, quoi.
Bah, en fait, c'est ça, c'est le travers un peu dont je parlais, c'est que c'est un métier, mais à la fois c'est une passion. Donc, c'est quelque chose qui se partage beaucoup plus facilement. Et c'est des gens qui aiment en général beaucoup rencontrer les autres. Oui, qui sont assez, ouais, comme tu dis, un peu militants. Et puis qui aiment partager, tout simplement, et qui aiment faire la fête aussi. Donc, ça aide, c'est vrai, il faut le dire.
D'ailleurs, c'est pas physiquement, c'est pas trop dur de.
Je pense qu'il faut que je m'impose une discipline maintenant, mais.
Ce que t'as pas encore fait depuis.
Ce que j'ai pas trop fait, mais j'aime bien me laisser porter aussi. Donc, quand. Enfin, voilà, j'essaye de m'adapter au rythme des gens, ce qui est parfois un exercice. Et donc, je dose un peu, j'essaye de pas trop. Par exemple, si je sais que j'ai un rendez-vous le mardi, j'essaye de pas trop prévoir de trucs juste après ou le mercredi, même jeudi, parce que déjà, je me laisse le temps que ça puisse déborder. Si je reste, dormir pas loin, que le lendemain, on veut continuer ou je sais pas. Donc, je veux me laisser cette liberté-là. Et puis, parfois, moi, j'ai besoin aussi de me retrouver solo, quoi.
Ouais.
Enfin, déjà, faut écrire. À un moment donné, pour écrire, il faut être seul. Et puis, j'ai besoin de cet équilibre où je vais me nourrir beaucoup des gens et après je vais me retrouver toute seule et voilà, prendre du recul, prendre de la distance et puis...
T'écris où ? T'écris dans ton camion ? T'écris dans ton...
Alors ouais, j'écris pas mal dans ma camionnette. Quand j'ai un peu de temps, ça m'arrive de me poser dans un resto, dans un café. Je sais pas, je trouve toujours...
Et j'imagine qu'en plus, quand t'arrives chez un vigneron, forcément, faut que tu goûtes ses vins direct, quoi. Enfin, t'as...
Ouais, mais c'est pareil. Il y a eu, c'est assez marrant. Comme il y a des gens, ils vont te faire déguster tout de suite. D'autres, ils vont oublier de te faire déguster. D'autres, c'est à la fin ou alors.
Quand ils oublient, tu leur rappelles, tu leur dis au fait, j'aimerais bien
non,
quand même.
Non,
il y en a qui chenachent, ouais. T'as pas goûté les vins.
Si, mais enfin un peu ou alors je les goûte après ou plus tard ou ils me filent une bouteille, ça arrive aussi.
Okay.
Mais c'est un peu dans ma philosophie. J'essaye de rien forcer, en fait. J'essaye vraiment de prendre ce qu'on me donne, Donc que ce soit au niveau en termes de travail, en termes de d'information et tout. Je pose des questions évidemment, moi aussi j'ai besoin d'apprendre plein de choses et voilà. Mais je laisse un peu l'autre se sentir à l'aise de me dire ce qu'il a envie de me dire ou pas.
Et en tant que femme, c'est compliqué tu sens qu'il y a une place un peu différente dans l'approche du vigneron, dans le travail de la vigne, dans le regard qu'on va porter sur toi.
Franchement, non. Pour l'instant, j'ai eu aucun souci, ni bonne ni mauvaise surprise. Non, ça change pas grand-chose. Bon, il y a des petits mécanismes, parfois, mais bon, enfin, faut pas trop relever. J'essaye de pas trop. Voilà, c'est naturel, quoi.
Ouais, t'as l'impression que même dans le travail des vignes, j'imagine qu'il y a beaucoup de vignerons garçons quand même.
Il y a beaucoup d'hommes, mais là, par exemple, j'étais à Closerie des Moussis dans le Médoc. On a vendangé un petit peu, on était un groupe de femmes, quoi. On était 10 femmes. Donc, c'est assez... Non, enfin, ça se vaut, je trouve que ça bouge quand même pas mal.
Toi, t'as fait les vendanges, d'ailleurs, tu disais...
Ouais, j'ai fait pas mal de vendanges, je pense que je vais en faire encore. J'ai fait chez Romain Desgrottes autour du 18 août, une petite semaine. Ensuite, j'ai été chez les Perrault. Dans le Beaujolais toujours, début septembre. Et là, j'ai fait un peu dans le Médoc aussi pour donner un petit coup de main. Et puis voilà, là, comme j'ai un petit souci de voiture, j'essaye d'aller un peu à droite, à gauche quand je peux.
C'est comment les vendanges ?
C'est dur. Ça fait mal au dos, ça fait mal aux genoux. Mais c'est un super exercice parce que tu dans l'effort tu je sais pas tu il y a des moments en fait où t'alternes où t'es dans le silence et t'es moi je refais ma vie hein je commence à méditer à penser à plein de trucs et tout ça peut être un peu aliénant et d'autres moments où tout le monde pète un câble parce que tout le monde en peut personne n'en peut plus il fait trop chaud voilà et puis tu dis des conneries tu fais des blagues tu te marres puis tu discutes avec des gens enfin du coup t'as plus du tout de barrière sociale t'as plus du tout de barrière de sexe ou quoi que ce soit d'âge et... même
Oui, ça, parce que les vendanges, ça rassemble plein de gens hyper différents.
C'est très rassembleur.
Et c'était toi, t'en as fait plusieurs d'affilée. Ouais. C'est rare, d'habitude, j'ai l'impression que les gens, ils en font une.
Ouais, bah moi, ça s'est présenté comme ça. Puis parce que du coup, j'essaye quand même de continuer un peu mon chemin et de voir différents univers. Pour moi aussi, c'est intéressant de voir donc, ce que c'est des vendanges où tout le monde est bénévole et donc t'es nourri, logé. Et donc, t'as un peu cette effervescence de groupe. Et des vendanges où t'es rémunéré. Et du coup, chacun rentre chez soi, entre guillemets, si t'as un chez toi. Et tu bois pas forcément un coup après les vendanges ou tu te voilà c'est plus
ah oui,
tous
les vignobles ne font pas vraiment les mêmes
non,
types de
chacun
vendanges.
Son rythme t'as des gens qui veulent pas se faire envahir d'autres pour qui c'est une période super festive où tout le monde se rassemble donc c'est hyper intéressant pour ça enfin, parfois je fais juste une journée aussi c'est vraiment pour dépanner il y a vraiment un truc d'entraide et de débrouille hein.
Et là du coup j'imagine que les vendanges c'est un peu la fin de la première saison de ton aventure, non ?
C'est beau pour moi, en fait, parce que du coup, en ayant commencé en avril, j'ai vu différentes phases de la vigne. Et donc, moi, c'est la première fois que je fais ça. Et je trouve ça assez beau de voir sur différents endroits, par différents vignerons, bah, de voir la vigne changer, évoluer. Donc, sur différentes phases. Et puis, de vendanger plusieurs cépages, plusieurs raisins. Et de voir ouais comment chacun il gère ça. Il y en a qui sont super stressés, d'autres qui sont super détendus. C'est bien, c'est cool, c'est enrichissant.
Et tu vas faire quoi quand les vendanges seront terminées?
Je sais pas trop. Je vais continuer là. Il faut que je récupère ma voiture et l'idée c'est de continuer. Ça me fait un peu peur le froid qui arrive et l'hiver. Donc je vais essayer d'aller chercher un peu de soleil, peut-être un peu dans le sud.
Et tu t'imagines en février-mars recommencer à retourner voir des vignerons?
Ouais, mais en fait j'aimerais bien que ça s'interrompe pas en fait. Enfin vraiment ou faire des petites pauses comme j'ai pu faire là, m'arrêter peut-être une semaine et puis reprendre. Mais j'aimerais vraiment que ça fasse un fil et enfin. J'ai l'impression d'avoir plein de trucs à faire et dès que je suis pas sur la route ou dès que je suis pas en train de faire ce que je dois faire quelque part, je commence à paniquer. J'ai l'impression d'être enfermée, donc je suis un lion en cage. Hein,
Et du coup, ouais, est-ce que ce serait le regarder plus le côté ce qui se passe dans les caves, ce qui se passe dans les fûts.
Ouais, peut-être. Ouais. Après, il va y avoir la taille aussi. Il y a plein de choses encore à faire et que j'ai pas vues. Et puis ouais, de voir les vins aussi, comment ils évoluent. J'aime bien aussi quand je peux retourner voir des gens que j'ai rencontrés et puis revoir des vins. Enfin, par exemple, faire les vendanges et retourner goûter les vins un peu après, c'est quand même chouette de voir ce à quoi t'as participé.
Et c'est quoi par exemple, la plus belle rencontre ou le moment le plus...
C'est trop difficile. Non, mais franchement, je peux pas répondre. C'est vraiment difficile.
Mais qu'est-ce qui peut faire que c'est un bon moment? Ça va être un truc de...
Bah, quand il y a un échange, quand la personne se livre et s'ouvre. Mais même, c'est très beau quand au départ, la personne est un peu fermée. Et puis d'un coup, je vois qu'il y a quelque chose où la personne se met en confiance et se dit, bon, bah, elle est... elle est pas trop con ou elle est un peu sympa ou ça va et donc ils se livrent et là il y a un truc qui se passe ou quand les gens me parlent vraiment ou je sens qu'il y a un truc, il y a un intérêt dans les deux sens, là c'est chouette, c'est vraiment beau quoi.
Ça peut se débloquer même tard, au bout de 2-3 jours. T'es déjà resté un peu plus pour dire non là, je sens
qu'il y a même des vignerons que j'ai vu plein de fois et ça s'est jamais débloqué. Mais c'est marrant, ouais.
Et dans ce cas-là, tu t'écris quoi? Tu te dis, bon, je vais pas écrire sur lui, je vais écrire sur
le
lieu.
Il y a 2-3. Donc, il y a des vignerons. Il y a certains textes que j'ai pas écrits. C'est pas que j'ai pas publié, c'est que j'ai pas écrit. Un ou deux, c'est parce que tout simplement, bah, il s'est pas passé quelque chose, que j'ai pas senti. Il y a quelque chose que j'ai pas senti. Et du coup, ça m'intéressait pas d'écrire quelque chose. Et puis il y en a un ou deux qui sont passés à la trappe parce que je sais pas, je manquais de matière aussi ou c'est des textes que j'ai pas réussi à écrire tout de suite et du coup j'ai perdu un peu mon flow et voilà, que j'ai un peu manqué, mais c'est des gens que je garde un peu sur le côté et je me dis ben je vais trouver un moyen de faire un texte plus tard, de les recroiser ou de les revoir dans d'autres contextes. Voilà. Ou des vignerons aussi que j'ai vus avec d'autres gens. Et du coup, moi, j'arrivais pas à créer quelque chose. Et...
voilà. La porte des vignerons, elle est plutôt facilement ouverte. Pas forcément pour, pas pour des médias tout le temps, mais je me dis que c'est un truc que les gens savent pas forcément, mais que... on peut aller visiter quasiment tous les domaines, pas tout le temps, mais en appelant, en envoyant un courrier,
ouais,
un mail.
Ouais, je pense que ça se fait de plus en plus. Enfin, c'est ce qu'ils disent en général, qu'ils reçoivent quand même pas mal de sollicitations, que ce soit par mail, par téléphone. Mais après, je pense que c'est à eux de doser aussi. Ils n'ont pas envie d'avoir tout le temps du monde, ça prend vachement de temps. Enfin, moi, je vois aussi certains comment ils m'ont reçu. Enfin, parfois, c'est une journée entière, quoi. Donc, c'est aussi de l'énergie. Et donc, mais ouais, je pense que ça fait son chemin.
Systématiquement, tu files un coup de main? Ou il y en a qui ont plus de nom, mais non, rien à faire
aujourd'hui? Non, ouais, il y en a qui sont pas forcément ouverts à ça, ou qui ont peut-être peur de me filer des trucs à faire, ou qui sont gênés aussi de me filer des trucs à faire. Mais souvent, franchement, j'aime bien. Moi. J'aime bien parce que moi, ça me permet de me participer. Et puis, j'ai l'impression que c'est un échange, quoi. Moi, ils me donnent de la matière, voilà, quelque chose pour écrire aussi. Et puis, ils me transmettent quelque chose. Et puis, moi, je file un coup de main. Et puis, ça. Puis, voilà, quand t'es en train d'étiqueter pendant 3 heures, enfin, au bout d'un moment, t'arrives à parler de tout et de rien. Ça se fait beaucoup plus naturellement. Puis, moi, ça me met à l'aise aussi. Donc,
Et ton vin préféré? Ou deux vins préférés, si t'as du mal à.
C'est trop dur.
C'est vrai?
Ouais.
Mais que tu conseillerais aux gens, je sais pas, les gens qui écoutent et qui disent bon, elle a vu plein de domaines. Parce que moi, j'ai vraiment tes choix de vignon. Moi, j'ai goûté. Je connaissais Pélissol parce qu'on l'a interviewé.
Ouais, j'ai écouté.
On l'a interviewé ici et j'ai goûté le rosé du temps retrouvé.
Ouais, ah bah c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est drôle, ouais.
Et je trouvais qu'il était c'est incroyable. Enfin, c'est doux, ouais. Rosé. Et je trouvais que je retrouvais vraiment ce que t'avais, l'histoire que tu racontais dans ton blog. Je trouvais qu'elle, je la ressentais sur
c'est
le
vrai
vin, ouais.
Ah, bah, c'est cool.
Et je me suis dit, c'est vrai, et c'est là que je me suis dit, tu sais, c'est comme, par exemple, avec un critique ciné, tu vois.
Ouais.
Il y a plein de critiques ciné qui vont tous dire un peu des trucs différents. Et à un moment, quand t'as trouvé un critique ciné qui correspond à ton goût, t'es content
de
faire ce qu'il fait, quoi. Et là, je me suis dit, ah, c'est cool, je peux lui faire confiance sur les endroits qu'elle m'a conseillé.
C'est chouette, bah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce que moi, je m'aperçois souvent qu'on n'a pas du tout, enfin, en général, les gens n'ont pas du tout la même perception du vin, mais même des trucs assez classiques sur l'acidité, sur la mer, sur le côté un vin un peu lourd, un peu dense ou un vin très léger, on n'a pas tous les mêmes définitions. C'est pour ça que je pense que j'ai une façon d'écrire où je mets beaucoup de mots, où c'est un peu long et où je parle de, j'essaye de donner des images aussi, avec des, je sais pas, des fruits ou des sensations, parce que quand tu goûtes un vin, t'as ce que tu perçois avec ton palais, mais t'as, enfin, vraiment tout l'imaginaire qu'il y a derrière et, donc j'essaye d'imager ça comme ça.
Pauline écrit donc sur son site ou sur son blog, on savait pas trop comment l'appeler, on va l'appeler par son nom, ce sera plus simple. Pauline écrit sur Chasser le naturel et poste de super photos sur le compte Insta du même nom. Allez-y, mais pas tout de suite parce qu'on n'a pas encore fini l'épisode. On va d'ailleurs prolonger cette discussion avec Anne Zunino qui travaille pour un de mes cavistes favoris à Paris, le Lieu du Vin, et qui organise aussi avec Antonin, son compagnon, qu'on a déjà reçu ici, me signalent les habitués, un salon sur le vin nature qui s'appelle Sous les pavés, la vigne, et qui, pour sa prochaine édition, s'installera à Lyon en novembre pour parler de cépages pirates. Mais je vous en dis pas plus, elle en parlera bien mieux que moi.
Moi, ce que je peux voir, c'est que souvent dans les couples de vignerons, il y a une injustice sur la médiatisation, puisque l'homme a son nom écrit sur l'étiquette. Parfois, aujourd'hui, mais il y a des couples qui ont leur nom à tous les deux écrit sur l'étiquette. Mais la très grande majorité, et depuis toujours, c'était le nom de l'homme, alors que la femme fournissait un travail vraiment très important. Souvent, on met en valeur le travail administratif qu'elles ont pu faire, mais c'est pas vrai, il y a vraiment pas que ça. Les femmes, elles ont toujours aidé à vinifier, à ramasser, à faire tout un tas de choses qui sont physiques, et pas juste les petits papiers et la commercialisation ou l'accueil au chai. Donc ça, oui, c'est vraiment très très injuste. Du coup, la question, j'ai un peu perdu le fil. C'était
vraiment très vaste, hein. Il n'y avait pas vraiment une question particulière. Non, mais c'était justement sur ce truc de... On en avait parlé avec une vigneronne quand on avait fait l'épisode sur le vin naturel avec Isabelle
Guichard.
Et aussi, elle disait que la chambre d'agriculture et de commerce aussi ne reconnaissait pas encore le statut de vraiment de couple. Donc en fait, même elle avait du mal parfois. C'était pas vraiment hyper légal. Donc même les lois rendent complexe le fait de dire on fait du vin en couple.
Ouais. Oui, puis après sur les autres métiers du vin comme caviste, ben pour créer sa cave, souvent on a besoin d'un apport financier, d'un prêt. ce qui, on le sait, est beaucoup plus difficile pour une femme seule. Il y a 1000 exemples de femmes à qui on n'a pas octroyé des prêts parce qu'en gros, le banquier ne croyait pas en l'avenir et la pérennité de sa boutique. Des femmes sommelières qui se prennent des réflexions dans la gueule au restaurant, y en a pléthore aussi, il y en a eu, il y en aura encore, c'est loin d'être terminé.
Toi, au lieu du vin, on te dit, est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent s'orienter vers un homme s'il y a un homme qui est là pour vendre ?
Disons qu'au début, ça a été un peu le cas par moment parce que ce n'est pas moi qui ai fondé la cave, évidemment, je suis seulement salariée, donc le gérant est un homme. Au départ, c'était lui le référent. Donc pour les clients, évidemment, ne me connaissant pas, ils ne pouvaient pas forcément savoir si j'avais des connaissances suffisantes pour les orienter. Aujourd'hui, sur la clientèle fidèle de la cave, il n'y a absolument aucun problème et aucune différence entre nous. Il peut arriver qu'un client de passage ait quelques secondes d'hésitation quand je le conseille, mais honnêtement, c'est très peu fréquent. Et je pense que je sais aussi recadrer les propos qui peuvent être un peu déplacés. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui arrive plus fréquemment. Des clients se rendent à une soirée où il y a des femmes et vont me dire qu'il donc faut un vin pour ces femmes. Elles ont le bec sucré, elles veulent du rosé. Mais c'est vraiment, ça peut paraître cliché, mais c'est vraiment des choses qu'on me dit.
Oui, parce que c'est même chose qui sont dites par des journalistes et par des critiques de vin aussi qui parlent de vin féminin, qui conseillent des vins et t'arrives quand même à leur dire à leur faire comprendre que c'est quand même un peu bête de penser comme ça. Est-ce que la pédagogie passe bien quand même?
Oui, il faut évidemment pas faire sentir le client bête, il faut pas lui mettre le nez dans son caca mais je me permets toujours de dire que il y a pas de goût féminin et que moi j'ai commencé par boire des vins très charpentés. Je suis arrivée au vin par le Chianti était un bon exemple, les Côtes-du-Rhône, les vins assez lourds et pourtant je suis une femme donc voilà, simplement essayer de détricoter ça. Mais en fait j'ai remarqué que ça passait beaucoup mieux quand on est détendu, qu'on rigole, que si on essaye de les persuader.
Mais est-ce que tu penses que le fait aussi que tu travailles plutôt sur des vins bio nature, donc tu as plutôt une clientèle avec une qui est plutôt à même de réagir plus progressivement sur ces sujets en fait, qui est plus ouverte, parce que je pense que c'est un truc global, c'est-à-dire qu'il y a comme je pense que le vieux vin est plus conservateur et le vin nouveau on va dire est forcément plus progressiste dans ce qu'il défend déjà en termes d'écologie, en termes de pratique, donc potentiellement en termes de vision du monde et tout. Est-ce que tu penses aussi c'est pour ça que c'est moins présent?
Je pense que si c'est le cas, c'est parce qu'une partie de la clientèle est plus jeune que des gens qui auront appris le vin de manière plus traditionnelle et qui n'auront toujours rencontré que des vignerons et pas des vigneronnes, qui auront peut-être aussi des valeurs un petit peu plus conservatrices. Mais sinon, je suis pas sûre que ce soit à relier à toutes les questions d'environnement ou d'écologie ou même de côté plus libre et plus foufou du vin naturel. Parce que dans ces milieux-là aussi, il y a beaucoup de machisme et il peut y avoir beaucoup de problèmes relationnels, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, ce n'est pas un milieu idéaliste et merveilleux. Mais j'avais organisé, il y a quelques temps, je pense il y a un an ou deux, à la cave, j'organise des dégustations thématiques. J'avais fait une dégustation sur les vins de vigneronnes. Sous-entendu, les vins de vigneronnes sont-ils différents des vins de vignerons? Et donc, j'avais tendu un petit piège aux participants, puisque je leur avais dit qu'il y aurait des vins de vigneronnes et des vins de vignerons, et qu'ils devaient retrouver qui était qui. Et en réalité, il n'y avait aucun vin de vigneron, il n'y avait que des vins de femmes, et j'avais choisi des exemples évidemment très variés. Et donc, tout le monde était tombé complètement. Personne ne savait, tout le monde était déstabilisé. Alors, il y en avait qui se doutaient que j'avais mis un vin puissant alors que c'était une femme et un vin léger, c'était un homme. Mais en fait, tout était des vins de femmes. Donc, à la fin de la dégustation, j'ai montré toutes les bouteilles et on a échangé autour de ça. Et c'était intéressant parce qu'à cette dégustation, il n'y avait que 2 hommes sur 12 participants. Oui. Comme si ça n'intéressait pas.
Est-ce que tu penses c'est à la fois que ça intéresse pas les hommes et à la fois que les femmes se sont dit enfin le vin peut être enfin on s'intéresse à nous en termes de consommatrices de vin? Tu vois, si tu vois qu'elles ont eu l'impression que c'était un endroit un peu plus safe peut-être pour elles de se dire Sans dire je vais trouver des vins sucrés, ça va être des vins féminins, en plus de
ah
dire
non, je pense pas.
Ah, il y a un angle qui peut-être pour une fois je vais être moins jugé, peut-être que je vais être plus prise au sérieux dans ce cadre-là, en sachant que aussi c'était toi qui l'organisais et en sachant que ouais. C'était la thématique globale.
Je sais pas, j'ai pas posé la question, mais je pense pas qu'il y ait eu la question de se sentir moins jugé sur ce qu'elles allaient pouvoir dire sur les vins. Peut-être il y avait une curiosité sincère parce qu'elles-mêmes, en tant que consommatrices de vin, n'ont pas accès à des vins de vigneronne tous les jours. Donc ça, c'est sûr. Le fait que moi, je sois une femme, je ne sais pas si ça joue, mais de manière générale, dans mes dégustations, j'ai plutôt plus de femmes que d'hommes. Peut-être que c'est aussi que les femmes sont plus intéressées à participer à ce genre de format où on apprend quelque chose. Je ne sais pas, hein, ça, c'est vraiment des...
Parce que les hommes, on sait. On pense qu'on sait.
Oui, bon, je ne veux pas tomber non plus dans ce genre de truc, mais... En tout cas, je constate sur toutes les dégustations que je fais qu'il y a plus de femmes qui viennent. Donc le fait qu'il y en ait eu plus ce jour-là, c'est relativement normal, mais il y avait vraiment une énorme différence, puisque c'était 10 femmes et 2 hommes, grosso modo. Voilà. Après, pourquoi elles sont venues en masse pour ça, pour ce qu'on vient de dire, je pense. Ouais.
Et toi, tu dirais du côté des consommateurs et des consommatrices, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose un peu plus... que ça évolue aussi, que ça se libère un peu et que le vin est plus forcément que le choix de l'homme ou le choix du copain ou peu importe.
Ah oui, bah là, enfin, en tout cas, à l'échelle de ma cave, de la cave où je travaille complètement, parce que j'ai vraiment, pour le coup, 50% de la clientèle qui est féminine et qui est seule, enfin, qui vient acheter du vin seule, pas avec le mari ou le copain. Donc là-dessus, vraiment, c'est la parité parfaite. Après, sur le discours tenu par les gens qui viennent acheter du vin, j'ai souvent plus entendu des femmes dire qu'elles n'y connaissent rien et qu'elles veulent un conseil. Et les hommes aussi veulent des conseils, mais parfois, ils ont une idée un peu plus précise de ce qu'ils pensent aimer ou de ce qu'ils veulent acheter. C'est la différence principale que je vois. Après, quand les gens viennent en couple, je ne vais pas dire que j'ai une clientèle parfaite, mais je trouve que les gens sont dans l'écoute mutuelle, donc ils se demandent ce qu'ils veulent boire. Il n'y en a pas un qui prend le dessus en particulier. En tout cas, de manière générale, c'est vraiment pas ce qui ressort.
Et tu dirais que c'est quoi, pour essayer de faire plus de place aux femmes? Donc il y avait ce truc que si le travail est fait en couple, les deux noms apparaissent sur l'étiquette. Peut-être aussi que des hommes aillent dans les dégustations de femmes vigneronnes. Quelles sont les initiatives, tu penses, qui pourraient permettre de faire évoluer un peu le truc et qu'on aille encore plus vers plus d'égalité, plus de parité?
Je pense qu'il faut... En fait, c'est un peu la question des gens qui vont dire « Oui, on veut bien boire du vin de vigneronne, mais on ne sait pas où, on ne sait pas où le trouver, on ne sait pas si elle existe vraiment, combien il y en a. » Donc c'est tout ce qui peut faire, tout ce qui peut mettre en valeur le travail de ces personnes-là est important. Donc que ce soit via des salons où effectivement on fait attention à ce que des vigneronnes soient invitées, que ce soit par des livres où des vigneronnes sont mises en valeur, que ce soit par des articles, et pas nécessairement en faisant des articles focus sur les femmes. Il faut que ce soit juste mélangé, focus sur les 3 meilleurs vignerons du Beaujolais. Il pourrait y avoir une femme. Et effectivement, parce qu'elle fait du bon Beaujolais, pas juste parce que c'est une femme. Donc, pour moi, ça passe par tous les canaux possibles de médiatisation, quels qu'ils soient.
C'est presque le rendre banal, en fait, et pas en faire une exception, ouais. De dire les 10 femmes qui font du vin, mais juste les 10 meilleurs vignerons, il y a beaucoup de femmes, en fait. Ça...
C'est ça.
Et le prochain salon, il est à Lyon?
Le prochain salon, c'est à Lyon, c'est le 3 et 4 novembre, au Palais de la Bourse. Donc c'est bien, c'est très central, c'est un beau lieu, très bien identifié des Lyonnais.
Quel thème?
Alors le thème cette année, c'est les cépages pirates, les cépages interdits.
Quoi des cépages interdits?
Alors il y a des cépages interdits en France. C'est une histoire assez vaste et complexe, mais on a essayé de rendre ça un petit peu ludique sur le thème de la piraterie. Parce que, grosso modo, il y a des cépages qui sont... pas autorisé à être utilisé dans les appellations, dans certaines appellations, parce que il pourrait contenir une certaine forme d'alcool qui pourrait être dangereuse pour la santé. Ça, c'est le discours officiel.
Et c'est vrai?
Non, en fait, c'est pas vrai.
Parce que c'est quoi? Parce que ça, je te coupe, mais c'est une forme d'alcool dangereuse pour la santé.
Oui,
est-ce que l'alcool en général, c'est pas dangereux pour la santé?
L'alcool du vin que tu vois, dont tu vois le degré écrit sur l'étiquette, c'est de l'éthanol. Et les autres formes dont je parle, c'est le méthanol, je crois. J'ai un doute. en tout cas, il faudra que je vérifie cette information. Mais c'est un autre type d'alcool qui, en grande quantité, pourrait être dangereux, mais c'est présent en toute petite quantité dans le vin. Et d'ailleurs, l'éthanol est une des formes d'alcool qui soit la plus dangereuse, donc c'est pas forcément très logique. En fait, la réalité, c'est que... Et aussi, bon, il peut y avoir d'autres critiques qui ont fait que ces cépages n'étaient pas autorisés dans... dans les appellations, qui sont qu'ils n'ont pas les bons goûts. Ils ne sont pas bons, en fait. Ils n'apportent pas des bonnes saveurs au vin. Ce qui est aussi faux, parce que c'est effectivement des saveurs différentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes. Et ce sont des cépages, souvent, qui ne viennent pas d'Europe, qui viennent d'Amérique, ou des cépages qui viennent d'Europe, mais qui ont été complètement oubliés, abandonnés, arrachés.
Et quand tu dis interdit, c'est on n'a pas le droit de les faire pousser, ou en fait, si tu les fais pousser, tu sors de l'appellation?
Bah, tu peux les faire pousser, mais tu n'as pas le droit d'utiliser le raisin pour le vinifier et en faire du vin.
Pas le droit du tout, c'est-à-dire que si tu le fais, tu n'as pas le droit de vendre ton vin à la fin?
Non, tu n'as pas le droit de le commercialiser.
Ah oui, c'est pas juste sortir de l'appellation, oui, c'est vraiment interdit.
Oui.
Il y a quand même des gens qui le font, du coup, j'imagine.
Oui.
Sinon, vous ne les inviteriez pas au salon. Et comment, ça me passionne. Comment ils... Donc ils l'assument, j'imagine, puisque vous les invitez au salon.
Oui, alors en fait, il y a des gens qui ne le disent pas, par exemple, qui ne le mettent pas sur l'étiquette. Ils vont dire « ce vin est issu de cépages traditionnels oubliés ». Il y a des gens qui l'assument et qui se prennent parfois des amendes ou des risques d'amende. Il y a des gens qui en mettent, par exemple, très peu pour compléter un vin, donc ça va passer un peu inaperçu. Et puis il y a des gens qui ne les commercialisent pas, qui font aussi à titre expérimental. Voilà, enfin, je vais pas citer de nom, mais à la cave, on vend des vins, par exemple, avec des cépages interdits.
C'est quoi le nom de ces cépages?
Alors, ils ont des noms très poétiques, parce que souvent, enfin, c'est anti-poétique, c'est des noms très, au contraire, très basiques, avec des chiffres, notamment, parce que, par exemple, la personne qui a créé le cépage lui donne son nom, et puis après, 01, 02, 04. Mais sinon, tu as des noms comme l'Herbemont, le Coudert, le Clinton, enfin moi je dis le Clinton, ça me fait penser à Clinton, le Baco, le Cybèle 214, voilà.
Ok, donc pendant le salon, vous allez proposer des vins ouais. issus de ces cépages?
En fait, on va faire un débat où il y aura des vignerons qui utilisent ces cépages et aussi des spécialistes des cépages modestes, des cépages interdits. Et on va faire goûter du vin pendant le débat aux participants pour qu'ils comprennent aussi ce que c'est que ces goûts, parce que c'est vrai que parfois les vins peuvent avoir des goûts très étonnants. Mais c'est bon, c'est pas mauvais pour autant, c'est juste différent.
Et on pourra en goûter ailleurs que pendant le débat, je veux dire dans le salon.
Oui, il y aura des vignerons qui auront des stands et qui pourront le faire goûter aussi.
Ils auront des cache-œil et des perroquets sur l'épaule.
Ils auront un masque noir sur le visage
c'est
et un micro pour troubler leur voix.
Non, c'est non, non le masque noir, je pensais que je me disais peut-être qu'en fait pour faire un stand pirate pour
non,
les.
Non, non. Non.
Oui, donc ils sont j'imagine, à découvert. Ah, c'est fou, donc, en fait, bon, donc si on veut en savoir plus sur les cépages pirates. Et sur le vin nature aussi, parce que j'imagine qu'il y aura aussi des stands traditionnels nature,
voilà,
même si ça ne veut rien dire.
Bah, il faut venir au salon,
oui.
3 et 4 novembre,
3 et 4 novembre
Palais de la Bourse, plus c'est de 60 vignerons.
10 euros l'entrée.
Après, il y a des stands de vin à peu près 60, il y a des stands pour se restaurer, que de la bouffe artisanale. Et puis, il y aura toujours un grand stand de librairie, évidemment, avec beaucoup de dédicaces, beaucoup d'auteurs, sur le vin, sur la nourriture au sens large. Et puis, je crois que j'ai tout dit.
Anne édite des livres aussi chez Nourriture Fût. Lisez-les car ils sont géniaux. On met toutes les infos pour le salon aussi dans la barre d'infos sous les pavés La Vigne à Lyon le 3 et 4 novembre. J'y serai d'ailleurs, donc on pourra peut-être échanger un peu sur tout et n'importe quoi. Merci encore aussi à Pauline que vous pouvez retrouver sur Chasser le Naturel. On vous met tout ce dont vous avez besoin dans la barre d'infos. On a aussi une carte Mapster où on met les restos de nos invités et aussi ceux qu'ils aiment. Et puis on est aussi sur Twitter, BouffonNE, et pareil sur Instagram. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes, animée par moi, Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination Laura Cuissard. N'hésitez pas à en parler à vos amis et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire si le cœur vous en dit. À la semaine prochaine !